Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, bienvenue. Merci d'être là. On est très très heureux, très heureuse de vous accueillir pour la conférence de ce soir. En ce qui me concerne, je suis Gabrielle Paulet, je suis salariée des Jésuites en charge de la transition écologique. Les Jésuites, à l'échelle internationale, sont engagés sur les questions d'écologie. Ils ont dans leur priorité à l'échelle internationale le fait d'avancer avec d'autres pour la sauvegarde de notre maison commune. Et avec le mouvement Ecclesia et les facultés Loyola Paris, nous avons souhaité organiser ensemble une conférence sur ces sujets, sur ces questions d'écologie, en adoptant un autre angle de vue par rapport à notre manière habituelle de travailler, de considérer les choses, pour nourrir et renouveler notre engagement, avec le désir de s'adresser à la fois aux jésuites, au public de cette université dans laquelle nous sommes ce soir, à la famille ignatienne et à toute personne de bonne volonté. L'appel à la conversion écologique que nous a lancé le pape François avec l'encyclique Laudato Si, on le sait, est plus d'actualité que jamais. Et en même temps, on sent le risque d'un essoufflement, la tentation du renoncement, du « à quoi bon ?». Notre projet est donc venu du désir de contribuer à l'échelle de nos trois institutions à ce que la question écologique reste vivante dans notre réflexion collective et dans notre envie d'agir. Et on a pensé à inviter Mathieu Dardaillon pour nous donner des pistes pour nourrir notre élan pour agir. Il a accepté et nous sommes très heureuses de pouvoir l'écouter et échanger avec lui ce soir. On a par ailleurs eu l'envie de voir quel pont pouvait être jeté entre les propositions que fait Mathieu Dardaillon et la manière chrétienne de s'engager pour un monde plus juste et plus durable. Pour ça, on a demandé à Agnès Manori-Tonil de réagir aux propos de Mathieu Dardaillon depuis le point de vue de la spiritualité ignatienne. Agnès Manori-Tonil est rédactrice en chef adjointe de la revue Christus, qui est une revue jésuite de spiritualité. La revue Christus s'intéresse de près à la question écologique, avec notamment une nouvelle rubrique d'éco-spiritualité qui a vu le jour depuis à peu près un an. Je passe la parole à Stéphanie pour la suite de cette brève introduction.
Merci Gabrielle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphanie Talévis, membre donc, du mouvement Ecclesia, et en charge de toutes les questions de transition écologique au sein de ce mouvement. Donc, pour ceux qui nous découvrent ce soir, Ecclesia, c'est un mouvement chrétien donc de discernement qui accompagne ses membres donc à unir leur foi entre leur foi et leur responsabilité professionnelle, notamment dans des vies d'équipe. Voilà, on relie et on discerne sur nos vies professionnelles. Et c'est aussi dans notre ADN de mouvement d'être ouvert au dialogue avec d'autres mouvements. On est vraiment, vraiment ravis de cette initiative conjointe. Donc, merci Gabriel, merci Hélène aussi, et bien sûr Mathieu d'être venu jusqu'à nous. On espère que ça sera aussi le début de d'autres initiatives de ce type-là, avec des mouvements soit ignatiens, soit des réseaux chrétiens, et évidemment des acteurs engagés dans la société sur ces questions qui nous tiennent à cœur. Donc, merci également à vous d'être là. Et on vous souhaite une très bonne conférence. Je passe la parole à Hélène.
Donc, Hélène Noisette, moi je viens vous souhaiter la bienvenue au nom des facultés Loyola Paris. Donc, bienvenue à tous, à toutes. Merci Mathieu et merci Agnès d'avoir répondu à notre invitation, d'être là ce soir. Donc, aux facultés Loyola Paris, et en particulier dans le domaine d'éthique sociale et environnementale, et ces questions des changements auxquels nous sommes convoqués par les défis socio-écologiques de notre temps, c'est des questions qu'on travaille, qui sont au cœur de nos domaines d'enseignement, de nos réflexions, en particulier avec un diplôme universitaire qu'on a lancé il y a 2 ans en écologie intégrale, voilà, qui cherche à permettre à des personnes de s'engager davantage, personnellement et collectivement. Et cette dimension du collectif, elle est importante pour nous. Voilà. Et donc, au nom des facultés et du domaine d'éthique sociale et environnementale, bienvenue à vous tous ce soir.
Bonsoir à tous. Alors vous voyez, je suis déjà la quatrième à parler. Pour donner la parole à Mathieu, mais je pense que je vous apprendrai rien à vous qui êtes dans le monde professionnel, qu'il faut savoir d'abord se mettre à plusieurs quand il y a quelque chose de vraiment important, et puis être en mouvement. Et d'ailleurs, juste après, en fait, on va descendre de scène et puis on va remonter après. Donc voilà, il faut savoir bouger, c'est important. Donc il me revient de présenter en quelques mots Mathieu, mais qui va aussi, je pense, parler de son parcours, tout en nous présentant ses propositions. Donc Mathieu, pendant une bonne dizaine d'années, tu as été à la tête de Ticket for Change, que tu avais cofondé. Ticket for Change, c'est une organisation qui vise à toujours, même si tu as passé la main, à aider des associations, des entrepreneurs qui avaient envie d'agir avec un fort impact social ou écologique, les aider à trouver la force d'agir et puis de développer leur activité. Et puis, dans un deuxième temps, c'était aussi une organisation pour soutenir des entrepreneurs dans cette sphère-là. Maintenant, tu as plutôt une activité plus personnelle avec, d'une part, des conférences où tu rends compte de toutes tes expériences et de ce que tu as trouvé à titre personnel et puis pour le monde de l'entreprise, comment retrouver ce pouvoir d'agir. Voilà, donc sous forme de conférences, tu es assez actif sur les réseaux sociaux aussi. Et puis tu m'as dit juste avant que tu as aussi développé une proposition sous forme de parcours. De parcours dans des sphères différentes, toujours avec cette idée d'aller rechercher en soi, dans ses talents, dans ses forces propres, ce qui va permettre de soit de rebondir, soit d'avancer. Donc voilà comment va se dérouler un petit peu notre soirée. Mathieu, à l'aide de ce qui va être projeté sur l'écran, va nous parler de ce qui compte pour lui et qui compte pour vous aussi, je pense, retrouver sens et pouvoir d'agir au service d'une société plus juste et durable. Après quoi, je mettrai ma casquette de la revue Christus pour dire ce que j'entends et qui résonne dans la façon qu'Ignace de Loyola a eu d'indiquer comment vivre l'évangile et agir dans ce monde parfois confus. Et puis ensuite, on vous donnera la parole pour que vous puissiez réagir à ce que Mathieu a dit, poser vos questions, et on espère que ce sera le début de conversations qui se prolongeront en dehors de cette salle.
Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que on va descendre, comme ça je serai plus à l'aise pour vous parler et pas trop grand par rapport à vous. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré, touché, un peu intimidé aussi d'intervenir dans un tel lieu. On va parler ensemble de ce sujet de nourrir le sens, mais surtout le pouvoir d'agir, pour faire émerger une société un peu différente, un peu plus juste et plus durable. Peut-être avant de commencer, j'avais envie de vous faire un petit sondage. Je vous invite à lever la main si c'est votre cas. Qui parmi vous se sent parfois un peu impuissant, impuissante, quand on regarde l'actualité autour de nous ? Globalement, il y a des mains levées. On va partir de là. Et comment, en reconnaissant cette situation, on peut ne pas céder à la fatalité, mais agir comme on peut là où on est, avec nos talents propres, nos marges de manœuvre, individuelles et collectives, pour aller vers un mieux. C'est tout le sujet du jour. D'où je vous parle d'abord quelques mots sur mon cheminement. Déjà, mon cheminement, il commence quand j'ai 16, 18 ans, et au fond, je cherche trois choses. Quand je regarde a posteriori, je cherchais trois choses. Un, du sens. Comment je peux être utile? Comment est-ce que je peux être utile aux autres et améliorer un peu le monde? Le rendre un peu meilleur que je l'ai trouvé quand je suis arrivé. Ça, c'est lié aussi au scoutisme qui m'a beaucoup nourri. Du sens. Mais le faire bien, le faire avec efficacité, vraiment transformer le monde et le faire dans la durée, pas que ce soit éphémère ou un feu de paille. Et puis, le faire avec du plaisir sur le chemin. Le faire avec de la joie, de l'énergie, avec des personnes qui me donnent de l'énergie. Voilà, ça, trois moteurs profonds. Ça donne pas un métier directement. J'ai hésité, j'ai regardé dans l'humanitaire, j'ai regardé dans le monde, dans la médecine, dans le monde politique, etc., pour finalement faire des écoles de une école de management, études de commerce. Ça peut être étonnant au premier abord, mais parce que j'avais l'intuition que par les entreprises, peut-être on pouvait avoir un levier pour faire changer les choses à grande échelle si on l'utilisait à bon escient. Malgré tout, j'étais assez déçu de ce qu'on m'enseignait. En tout cas, ça nourrissait pas mon pilier sur le sens. Et du coup, j'ai quand même eu la chance de croiser ces lectures, quand j'avais 20 ans à peu près, qui parlent de femmes et d'hommes qui utilisent le levier de l'entreprise, l'efficacité de l'entreprise, au service de la résolution de grands défis sociaux environnementaux, partout dans le monde. Pour moi, c'était un peu le yin et le yang, il y avait tout là. Mais voilà, c'était encore un peu théorique, et j'avais besoin de voir à quoi ça ressemblait pour de vrai. Et on m'en parlait pas pendant mes études. Alors avec un ami, on est parti sur le terrain pendant une année de césure, au milieu de nos études. Donc aux Philippines, 3 mois, en Inde, 3 mois, au Sénégal, 3 mois, en tant que bras droit d'entrepreneurs sociaux, pour découvrir c'est quoi ces entrepreneurs d'un nouveau genre, et c'est quoi leur joie, leurs difficultés, et quel va être notre rôle peut-être, si on peut jouer un rôle d'acteur de changement là-dedans. Et à l'intérieur de ce voyage, j'ai participé à un événement en Inde, qui s'appelle le Jagriti Yatra. Ça veut dire voyage éveil en hindi. Et imaginez, vous êtes, donc là j'avais 22-23 ans, vous êtes avec 450 jeunes, très majoritairement des Indiens, et ensemble on fait le tour de l'Inde en train. 8000 km. 8000 km c'est vraiment le tour de l'Inde. Et chaque jour on s'arrête dans une ville où on va en profondeur s'immerger dans un défi de société prégnant. Et puis l'après-midi, on va voir des gens qui ont adressé ce défi-là et qui ont un impact sur des millions de personnes. Et ils racontent comment ils ont démarré de zéro à un impact auprès de millions de personnes. Je donne juste un exemple là à gauche. Vous voyez Aravind Daycare. Ici, c'est l'hôpital ophtalmologique le plus performant du monde. Donc par rapport à la maladie de la cataracte, si on n'opère pas progressivement, on devient aveugle. Ça coûte assez cher d'opérer la maladie de la cataracte, environ 200 $. Ils ont trouvé par un procédé technologique, ils l'ont passé à 5 $. Mais 5 $, c'est beaucoup trop cher pour les plus démunis. Du coup, ils ont inventé un modèle où les plus démunis ne payent pas. Et par contre, on incite les autres à payer au moins 15 $. Ce qui fait qu'il y a 36 millions de personnes qui ont été opérées et le modèle a toujours été rentable, sauf une année. 36 millions de personnes en 32 ans. C'est juste un exemple. Je suis sorti de ça avec une conviction. Donc 15 exemples comme ça sur toutes les thématiques, sur l'environnement, le droit des femmes, etc. Je suis sorti avec une conviction, c'est que l'impossible était temporaire. Sur tous les défis socio-environnementaux qu'on avait vus, à chaque fois, il y avait des gens qui avaient trouvé des solutions qui impactaient positivement des millions de personnes. Et moi, ça m'a donné une idée, c'est d'essayer d'adapter ça en France. En tout cas, ce parcours, ce Jagriti Yatra, qui est inspiré par Gandhi, devient le changement que tu veux voir dans le monde, eh ben, ça m'a donné une idée, et avec une équipe, avec des cofondateurs, avec des partenaires, on a initié Ticket for Change en 2014, donc qui aide chacune, chacun à trouver ses talents, on a tous des talents, les mettre au service des enjeux qui nous touchent dans le monde, et en faire son travail. Parce qu'en moyenne, on travaille 80 000 heures dans nos vies, et donc c'est un espace considérable pour façonner la société à laquelle on aspire, 80 000 heures. Et donc c'est un projet qui nous a complètement dépassé. Il y a plus de 150 000 personnes qui ont suivi nos différents parcours, qui ont utilisé nos différents outils. Parmi eux, vous connaissez probablement à gauche Yuka, l'application qui vous aide à savoir ce qu'il y a derrière ce que vous mangez ou les produits cosmétiques. C'est plus de 80 millions d'utilisateurs. Ils étaient là au tout début de le parcours en 2016. Au milieu, vous avez le Drive tout nu. C'est le premier Drive. Donc supermarché, le premier supermarché zéro déchet au monde. Ils sont à Toulouse et maintenant c'est répliqué dans plein de territoires. Ou encore les petites cantines, c'est des cantines qui recréent de la solidarité dans des quartiers où malheureusement les gens se rencontrent pas forcément. C'est quelques exemples, il y en a dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais voilà, il y a 3 ans, un moment je me suis retrouvé comme ça. C'est-à-dire... avec du flou, moins de clarté, moins d'intuition, moins d'inspiration. Et je me suis dit, ah, c'est la première fois que c'est aussi dense, ce brouillard. Évidemment, dans la vie d'entrepreneur, on vit ça plein de fois. Mais là, il y avait une densité particulière. Et j'avais l'impression que j'étais pas préparé à ce qui venait, et je manquais de repères et d'inspiration. Et là, du coup, j'ai fait un choix, c'est que j'ai fait le choix de me mettre en retrait et d'ouvrir ce que j'ai appelé, donc de passer la main sur mes engagements et d'ouvrir ce que j'ai appelé un vide fertile, donc une année. Une année de jachère ou de vide pour me régénérer, mieux comprendre le monde parce qu'il avait beaucoup évolué en 10 ans d'engagement là, et puis savoir discerner où j'avais envie de mettre mon énergie pour la suite. Et j'avais du temps à retrouver. Et là, mon programme, c'était juste suivre la sérendipité. Ça veut dire suivre les rencontres, mes intuitions, les lectures, où ça m'emmenait. Et ce qui m'a frappé, c'est que du coup, j'avais le luxe de pouvoir parler à des gens très différents dans mon quotidien. Et donc, je parlais à des jeunes qui s'orientaient dans la vie, ils me racontaient ça. Des salariés, ils me racontaient ça. Des activistes environnementaux, ils racontaient ça. Des dirigeants d'entreprise, ils racontaient ça. Des conseillers de l'Élysée, ils racontaient ça. À toutes les échelles, tout niveau des gens rencontrés par hasard dans les cafés, ils n'utilisaient pas les mêmes mots, mais ils racontaient une sorte de brouillard et de difficulté à agir dans le monde actuel avec des clés qui, quelque chose de plus difficile et de complexité, de brouillard décisionnel. Waouh ! Donc là, je me suis dit, okay, une fois que j'avais vu ça et que c'était des gens tellement différents, je me suis dit, il y a un sujet à creuser. Et donc, je me suis mis en quête pour essayer, pour moi-même, d'essayer de retrouver des outils pour me redonner du pouvoir d'agir. J'en avais eu jusqu'ici. Et puis, si ça peut être utile, le partager. C'est donc ça qui a donc à peu près un an de recherche dans plein de disciplines, et puis c'est ça, une année d'écriture pour aboutir à ce livre, donc où je partage des principes et des clés concrètes, des outils qui moi-même m'ont redonné de l'espérance, et puis du pouvoir d'agir dans le monde actuel, même celui qu'on connaît, et surtout parce que c'est celui qu'on connaît, donc j'ai retrouvé une sorte d'espérance, malgré et parce que c'est ce monde-là. Et je pense que... donc voilà, c'est ce que je partage dans le livre, des clés concrètes. Alors je vous partage maintenant, je rentre dedans, je vous partage quelques éléments, il n'y a pas tout, mais peut-être qu'ils pourront faire résonance, j'espère. Alors d'abord, j'ai eu besoin de prendre du recul et de me demander, waouh, est-ce que c'est juste mon histoire ou est-ce que c'est quelque chose de plus collectif que l'on est en train de vivre? Et du coup, de m'interroger, c'est quoi le moment qu'on est en train de vivre? Alors, j'ai lu plein de choses sur l'histoire, la prospective, etc. Je vous résume juste 2-3 éléments qui sont importants. Il y a un article qui m'a énormément touché, qui s'appelait « Bienvenue en temps post-normaux » d'un prospectiviste, qui racontait que là, l'époque que l'on vivait était très singulière par la conjonction de 3 choses. La première chose, c'est la complexité, l'immense complexité de ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit tout ça en même temps. On vit le retour des guerres, en même temps que l'inflation, les incertitudes économiques, les droits de douane, le baril de pétrole, etc. En même temps que les effondrements écologiques, sous toutes ces formes, en même temps que les fractures sociales, en même temps que le flux d'informations qu'on a tous les jours via nos écrans, en même temps que l'intelligence artificielle qui va tout bouleverser, et on ne sait pas bien comment. Et un seul de ces éléments, ça pourrait complètement nous déboussoler. Un seul, la guerre ou l'IA, mais on vit tout en même temps. Donc il y a des paradoxes à l'intérieur de ça, comme l'écologie avec l'IA, l'économie et l'écologie. Enfin, c'est normal d'être déboussolé, d'avoir une complexité immense. D'abord, il faut reconnaître ça. C'est normal dans ce moment-là, en tant que si on travaille, si on est décideur, manager, leader, ou si juste être humain, on vit ce moment-là, quoi. Dans le même temps, le deuxième facteur, c'est l'accélération. Tout va toujours plus vite dans notre société. Ça, c'est Hartmut Rosa, sociologue, philosophe allemand. Tout va toujours plus vite. La technologie nous aide à gagner du temps. Et pourtant, qui a l'impression d'avoir plus de temps en ce moment? On a toutes et tous la sensation de manquer de temps. Et donc, on est dans l'instantanéité permanente. Et le troisième facteur, c'est la polarisation. À un moment, on a besoin plus que jamais d'adresser des problèmes complexes avec de la nuance et la richesse du regard de chacun. On a de plus en plus de mal à s'écouter et à avoir une vision nuancée des choses pour travailler avec la richesse des regards de tout le monde. Donc on a du mal à avancer dans le même sens. Donc on a des problèmes extrêmement complexes, on est super superficiel, on rentre pas dans profondeur, et on se tape dessus les uns les autres avec des formules plutôt que d'essayer d'avancer dans le même sens. Donc la conjonction de ces trois choses, oui, il appelle ça des temps post-normaux, mais du coup ça peut expliquer pourquoi on peut avoir un certain sentiment d'impuissance, je pense. Alors pour moi, ça c'est une histoire qui se passe en ce moment, mais pour moi il y a quelque chose de plus important encore de notre époque, et pour moi c'est le regard que je porte sur le monde. Je pense que si peut-être on se sent impuissant, ou en tout cas déboussolé de plein de choses qui se jouent en ce moment, c'est pour cette raison. C'est parce que, selon moi, on est probablement entre deux mondes. On est entre un monde dans lequel on a toutes et tous grandi, dans lequel on a tout fonctionne comme ça autour de nous, mais on sait que ce modèle-là va dans le mur. Et, en même temps, le nouveau monde ou le nouveau modèle, il n'a pas totalement émergé. Donc, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Et on vit quelque part entre les deux. Quand je parle du monde actuel ou de l'ancien monde, en fait, je parle du paradigme. Donc, c'est un gros mot, mais ça veut dire le mode de pensée, la manière dont on décide, on fonctionne, on voit le monde. Et ben, en fait, ce modèle-là, moi, je le décris comme ça, l'économique comme finalité, le but de notre société ou le but de nos organisations ou même le but individuel parfois, c'est l'économique d'abord. C'est toujours plus, avec parfois du consumérisme, matérialisme, etc. C'est toujours plus vite. Avec une dynamique de domination de la nature, on extrait les ressources naturelles, et de domination des humains, parfois. Ça, c'est le paradigme actuel qui fonctionne, qui guide l'ensemble de l'économie mondiale et les grandes institutions. Alors, d'abord, faut reconnaître que ce paradigme-là, il est extrêmement efficace à ce qu'il cherche à faire. Et moi, on m'avait jamais montré ça, mais j'ai dû mettre en forme des données d'économistes pour me rendre compte de ça. C'est-à-dire, ça, c'est l'évolution du niveau de vie par habitant dans le monde depuis Jésus-Christ, à gauche. C'est complètement plat jusque 1750-1800. Et après, il y a cette exponentielle hallucinante à la révolution industrielle, où le niveau de vie par habitant dans le monde explose de manière exponentielle. Donc ce mode de pensée, il nous permet un niveau de développement économique et social jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça, faut reconnaître ça, d'une part. Mais, dans le même temps, ces courbes exponentielles, on les a mises partout. Ça, c'est une image frappante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces courbes, ça s'appelle la grande accélération. Donc là, vous avez, c'est pas la même échelle, là vous avez 1750, en gros la révolution industrielle, le début, et ici, aujourd'hui. Et ça, c'est les activités humaines. Donc, c'est toutes nos activités humaines. La population mondiale, la population urbaine, le tourisme international, les télécommunications, etc. On a des courbes exponentielles partout. Pourquoi pas, à la limite? Sauf que ces courbes, on les met sur le système Terre, qui, lui, a des limites. Le dioxyde de carbone, le méthane, l'acidification des océans, le recul de la biodiversité, ce sont les mêmes courbes. Nos activités humaines ont les mêmes courbes sur le système Terre. C'est le toujours plus vite, le paradigme qui est à l'origine de notre mode de pensée qui crée ça. À la limite, on pourrait dire c'est pas grave, sauf qu'on le sait, il y a des limites planétaires. Il y en a 9. Il y a 9 limites à pas dépasser pour pas mettre en danger la vie sur Terre. On en dépasse 7. Ça, c'est une alerte, tout le monde le sait. Mais on n'arrive pas à changer nos actions, même en ayant conscience de ça. 7 limites planétaires sur 9 qui mettent en danger la vie sur Terre. Et pourtant, Einstein nous l'a dit, très bien, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Et bien souvent, on essaie d'ajuster à la marge le système actuel, de le rafistoler, de l'améliorer par-ci, par-là. Et c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est une refonte avec le système de valeurs. C'est un changement de civilisation qu'il faut réussir à faire. Et donc le défi, c'est d'arriver à inventer quelque chose d'autre. Alors ça peut être ces éléments-là ou d'autres, hein, mais et si c'était le mieux vivre comme finalité? L'économique, c'est essentiel, hein, attention, hein, c'est un pilier qui est essentiel, mais équilibré avec le social, avec l'environnemental. Et si c'était le mieux vivre au fond? Et si on privilégiait la qualité à la quantité ou toujours plus, la qualité des biens que l'on produit, leur durabilité, une vraie qualité, la durabilité, leur durée de vie. Et si on valorisait la qualité des liens? Et si on s'interrogeait sur le rythme dans la vie? Si c'était pas toujours plus vite? C'est quoi le juste rythme pour nos vies ou pour nos entreprises? Et si on était dans une dynamique de régénération du vivant parce qu'on allait trop loin dans la dégénération, dans l'extractivisme? Et si en revanche on misait sur l'humain avec le développement des talents, des compétences, parce que c'est le facteur humain qui peut nous permettre de trouver des solutions? Donc en tout cas, le défi, c'est d'inventer une autre manière de penser en profondeur. Il n'y a pas plus grand défi. Il n'y a pas plus passionnant aussi, je crois. En fait, ça peut être... Pour moi, c'est assez vertigineux de se dire ça. Oui, on peut. Ouais. En fait, oui. Bon, on peut, enfin, croissance, pour moi, c'est pas un gros mot non plus. Ça dépend ce qu'on met derrière. Pour moi, il faut faire croître le lien social. Il faut faire croître la solidarité. Il faut faire croître... mais évidemment, épanouissement, ça marche peut-être encore mieux. Il faut faire décroître des choses, croître d'autres. Mais oui, épanouissement des humains. Et donc, ça peut être vertigineux de se dire qu'on est dans ce moment où il faut réinventer en profondeur. Et en même temps, on peut se dire, ouais, c'est peut-être une chance, en fait, d'être dans ce moment où il faut inventer quelque chose de différent, qui est pour moi de l'ordre de la renaissance, en fait. On est à la fin d'un moment, d'une grande période, et il y a un basculement, il va s'opérer, qu'on le veuille ou non. C'est juste, comment on participe à dessiner la suite. Et donc, il y a toutes les tragédies du monde. Mais peut-être pour celles et ceux qui sont dans cette salle et tout, on a peut-être la chance de pouvoir jouer un rôle à notre mesure, à notre échelle. Hein. Bah, c'est fascinant de se dire qu'on peut participer à cette aventure-là, je crois. Et je pourrais vous dire, peut-être s'il y a des questions autour de ça, là j'ai pas le temps de développer, mais pourquoi je pense qu'on est dans ce moment de changement de paradigme et qu'on avance dans ce moment-là, même si rien dans l'actualité nous montre ça. Alors, malgré tout, au quotidien, ça ressemble peut-être à ça, la vie. C'est-à-dire qu'on est dans cet entre-deux, dans cette zone de turbulence, on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Il faut survivre dans le monde actuel. Il faut être compétitif, il faut survivre, il faut des résultats à court terme. Et c'est vrai, il faut. Il ne faut pas être naïf. Moi, je suis entrepreneur, hein, je ne suis pas naïf. Il faut que, pragmatiquement, il faut les ressources pour... Et en même temps, bah, on sait qu'on ne peut pas s'appuyer pleinement sur le modèle actuel, il faut inventer autre chose. Donc comment est-ce qu'on met notre énergie sur quelque chose de différent, tout en sécurisant? Et là, on peut avoir une schizophrénie, en tout cas une difficulté à décider au quotidien. Alors, j'en arrive là. Du coup, là, c'est le cœur de ce que je voulais vous partager. C'est quelques principes et outils que je partage dans le livre et que je partage, en fait, dans des accompagnements que je peux faire avec des dirigeants, avec des entrepreneurs, avec des jeunes d'enquête de sens, etc. Donc, les principes, on peut les utiliser à différents niveaux. On peut les utiliser pour soi, comme un peu boussole de décision... personnel ou professionnel en tant que leader, on peut les utiliser pour une organisation aussi. On pourrait les utiliser à niveau sociétal aussi, parce que je pense que c'est des principes, ça s'adapte à tout niveau. L'intuition qui est derrière, c'est que étant donné le monde actuel, chaotique, incertain, complexe, si on n'a pas des boussoles solides, on va se faire balader par les événements. On risque d'être comme à gauche. Si on n'est pas ancré, on va se faire balader par tout ce qui se passe autour de nous et on va être dans l'urgence permanente et on risque de perdre son cap et son or. Si on a une boussole intérieure solide, ça peut être pour une organisation aussi, hein, c'est une clarté sur ce qu'on veut faire, bah ça va pas forcément être évident tous les jours, mais au moins on va savoir sur quel axe, par rapport à quel axe décider. Donc je vous partage quelques principes. Un premier principe pour moi qui est fondamental, c'est s'autoriser à rêver. Ça peut paraître naïf peut-être, étant donné les défis du monde, mais en fait, il nous faut retrouver de l'imagination, d'imaginer une société différente. Pourquoi je dis ça? Parce que tout commence par le rêve. À chaque fois qu'il y a eu des grandes transformations humaines qu'on a réussies, on les a d'abord imaginées avant d'être capable de les réaliser. L'imagination précède l'action. Et aujourd'hui, nos imaginaires sont complètement à sec. Quand on dit « Ah ouais, à quoi ça va ressembler une société qui aura réussi sa transition écologique ?» Il n'y a pas grand-chose. Hein. Nos imaginaires, ils sont à sec. Alors qu'avant d'imaginer la révolution industrielle, il y a des gens qui se sont demandé « À quoi ça ressemblerait d'être super efficace avec des machines pour nous faire gagner du temps ?» Et ensuite, il y a des gens qui l'ont réalisé. Avant d'aller sur la Lune, il y a Jules Verne et d'autres qui ont imaginé à quoi ça ressemblerait d'explorer les confins de la Terre. Et ensuite, il y en a qui l'ont réalisé. Mais c'est quoi nos rêves pour le futur? Et je suis tombé sur une étude, c'est dur de rêver, dans le contexte actuel et en règle générale. Je suis tombé sur une étude qui est frappante, qui parle de la créativité et de notre capacité créative. C'est deux chercheurs américains qui ont donné un test de créativité, un problème complexe à des jeunes enfants de l'âge de 5 ans, problème complexe à résoudre. Ils ont été bluffés parce que les enfants, 98% d'entre eux, avaient l'équivalent du niveau génie des ingénieurs de la NASA. Ils font le test avec des ingénieurs, ils font le test avec des enfants. 98% des enfants de 5 ans, ils ont le niveau génie des ingénieurs. Wow. Donc ils se sont dit, on va les suivre dans le temps, ces enfants-là. À l'âge de 10 ans, ils sont combien à être toujours les génies de la créativité? 50? C'est les mêmes enfants. Hein. C'est les mêmes enfants. À l'âge de 10 ans, ils sont 30%. À l'âge de 15 ans, ils sont 12%. La moyenne des adultes, 2%. Pourquoi? Parce que quand on grandit, on se conforme au monde. On se dit, ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et on s'autorise pas à imaginer les choses différentes, alors que c'est cruellement de ça dont on a besoin. Et pour avoir des idées nouvelles, il faut d'abord oser avoir des idées folles, puis travailler sur certaines, mais s'autoriser à avoir des idées folles d'abord. Alors j'adore, pour que ce soit un peu concret, j'adore ces trois principes de Donella Meadows, qui est une grande pionnière de l'écologie. Elle a notamment coécrit le rapport Meadows, une grande penseuse de la systémie, de la dynamique des systèmes. Trois règles d'or au moment de penser une vision. Ça peut être la vision pour ma vie, pour mon entreprise, pour mon association, pour ce qu'on veut. 1. Imaginez la vision que l'on veut vraiment. Et pas celle que l'on croit possible. On part pas de ce que j'ai aujourd'hui. Ouais, comment je peux faire mieux par rapport... Non, qu'est-ce que je veux vraiment dans mes tripes, au fond de moi? 2. Ne jamais se sentir obligé de dire comment. Pas au moment où on imagine la vision. C'est un tueur de rêve le comment à cet endroit-là. C'est ensuite que le chemin va se dessiner. Si on imagine quelque chose de radicalement nouveau qui nous inspire, on ne peut pas avoir toutes les réponses de comment on va le faire, c'est normal. Là, dire « mais comment on va faire ?» c'est un tueur de rêve. Et 3, une vision, ça doit être éthique. Ça doit notamment respecter les règles physiques. On y vient juste après. Mais en gros, mon rêve ne doit pas empiéter sur la capacité des autres à faire leurs rêves. Donc pour moi, plus on est dans le chaos, dans le flou, plus on a besoin de clarté sur ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est le rêve à l'horizon. La question du rêve, où elle amène directement cette question-là, au fond, la réussite. C'est quoi réussir? C'est quoi réussir ma vie? C'est quoi réussir notre projet collectif? Et pour moi, ça amène des questions un peu philosophiques qui sont, au fond, à la fin, je serai fier de quoi? Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est quoi mon essentiel? Par rapport à qu'est-ce qui est important, mais qui n'est pas mon essentiel? Par rapport à ce qui est superflu? Et même si toute la société me pousse à ça, tout mon entourage me pousse à ça, tout m'envoie vers ça, en réalité, c'est superflu. Donc, le fait d'être peut-être parfois à contre-courant, mais de savoir quel est son essentiel, c'est absolument fondamental. C'est qu'est-ce qui est la réussite vraiment pour moi ou pour notre organisation? Et étant donné les défis du monde, peut-être il faut dessiner la réussite différemment. Donc, ça c'est une économiste anglaise qui nous propose cette représentation visuelle. Donc, c'est Kate Raworth qui a écrit un livre sur l'économie du donut. Donc ça c'est une superbe réussite au XXe siècle de fait. C'est une très belle réussite ça, pour une entreprise, pour un État, courbe de croissance du chiffre d'affaires ou alors du PIB. Pourquoi pas? Mais peut-être, étant donné les défis du monde, il faut représenter la réussite différemment. Elle nous propose un dessin, à voir si on veut celui-là ou si c'est différemment. Mais elle nous propose, et si on voyait la réussite comme un donut? Donc en fait, dans le donut, donc le donut c'est l'espace jaune là, comme un donut qu'on mange. Hein. Elle dit, et si le but de notre société c'était d'être dans l'espace jaune? ce qu'elle appelle l'espace juste et sain. Ça veut dire mettre l'humanité dans l'espace jaune. En dessous, ici, on a le plancher social. Vous ne voyez pas très bien, mais en gros, le but, c'est que tout le monde ait accès au minimum pour vivre. Un logement de qualité, une éducation de qualité, une place dans la société, de la dignité, de la nourriture de bonne qualité, etc. En gros, c'est le sujet de pauvreté et d'inclusion. Dans les limites de ce que la planète nous permet, les limites planétaires dont on parlait avant, permettre une dignité à chacun dans les limites planétaires. Et si c'était ça le but de la société? Mais si on avait ça comme boussole, j'en ai parlé plusieurs fois à l'Élysée, etc. Et si c'était ça notre boussole, bah on ferait des décisions assez différentes, hein, notre boussole collective. Alors aujourd'hui, on est bien en deçà sur le plancher social et on explose le plancher environnemental. Mais donc si on changeait notre boussole, on changerait nos décisions. Donc, que ce soit celle-ci ou une autre, ça pose la question, c'est quoi réussir pour nous et c'est quoi notre boussole de décision, étant donné les défis du monde, pour nos vies, pour nos entreprises et pour nos acteurs publics. La question de la réussite, elle amène, au fond, ça demande parfois de, bah, d'avoir de la clarté sur les réponses. Et une autre, ce que j'ai découvert par mon chemin, en fait, j'ai eu besoin de me mettre en retrait, moi, pour un peu assembler les pièces du puzzle, pour redéfinir ce que je voulais faire pour la suite. C'est un peu ce visuel intuitivement qui m'est venu, c'est que pour nourrir la clarté, on a besoin d'un rythme différent. Et ce que j'ai vraiment découvert, c'est que les réponses étaient déjà en nous, mais il faut créer le cadre pour y accéder. Et pour ça, il y a quelques clés que je partage très concrètes de la vie de tous les jours. C'est ce qui m'a aidé, c'est notamment le vide. Ou le silence, peut-être une clé aussi ignatienne, mais je parle de vide, d'espace, un peu hors du temps. Le fait de marcher, il y a plein d'études scientifiques qui montrent à quel point ça nourrit aussi la clarté d'esprit, la créativité. Dans la nature, pareil. Le fait de passer par l'écrit, pas forcément écrire des articles ou des livres, hein, mais le fait de poser ses pensées, ça aussi nourrit la clarté. Le fait de passer moins de temps sur les écrans, qui sont en fait des stimuli extérieurs, par rapport au vide où on peut se retrouver et se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi. Et puis le fait de cheminer à plusieurs, par exemple avec du co-développement, mais ça peut être autre chose, c'est d'avancer avec des pairs et de s'entraider les uns les autres. Donc ça, ça peut être des clés de tous les jours qui pour moi sont des alliés un peu d'hygiène mentale pour nourrir la clarté dans un monde de profusion où sans ça, on peut se faire un peu déboussoler comme le premier visuel que je vous montrais. Donc c'est des clés pour nourrir la clarté à son niveau et s'assurer qu'on a la bonne définition de la réussite par rapport à ce qu'on veut vraiment. Alors pour moi, voilà, ça me fait penser un peu à l'image de la boule de Noël. Il y a tous les éléments, tout est là, mais tout est un peu confus, diffus. Et si j'arrive à laisser reposer par moment, hop, ah ouais, c'est bon, j'ai toujours mon étoile, elle est là-bas. Voilà, je nourris la clarté en mettant du vide parfois. Alors j'en arrive maintenant à des choses plus sur l'action. Là, c'était s'assurer que je suis aligné avec ma direction. Mais ça va pas changer le monde. Hein. En tout cas, pas tout seul. Qu'est-ce que j'en fais maintenant au quotidien? Comment je transforme ça dans l'action? Alors, pour moi, un principe qui est fondamental, aujourd'hui, il faut nourrir notre capacité à agir même si on n'a pas toutes les réponses. Parce qu'on n'aura pas toutes les réponses. Même si l'IA peut nous en donner plein, etc., on n'aura pas toutes les réponses étant donné l'incertitude du monde. Donc il faut plutôt cultiver la capacité à être en mouvement, qui est fondamentale. Alors juste là-dessus, moi on m'a beaucoup formé à faire des plans d'action. J'ai une idée, j'ai un rêve, mais comment ça devient un projet, puis un plan d'action? Pourquoi pas? Mais dans un monde incertain, c'est de moins en moins pertinent et on peut passer beaucoup de temps à penser le plan d'action parfait qui ne se réalisera jamais. Donc je vous propose des approches complémentaires qui, moi, m'aident beaucoup à nourrir mon pouvoir d'agir au quotidien. Même en tant qu'entrepreneur, voilà, c'est pas théorique, je le vis au quotidien. Et ça me donne un pouvoir d'agir qui est bien supérieur à ce que je faisais avant en essayant de beaucoup trop planifier. Ça, c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Vraiment, c'est mon compagnon de route. Vraiment, c'est le truc, tous les jours, je pense avec ça. À chaque fois que je ne sais pas comment prendre la suite, qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant? Donc j'hésite entre plein d'options, j'hésite entre A, B, C, X, Y, Z, etc. Qu'est-ce que je fais pour la suite? Eh bien, en fait, j'ai besoin juste de trois choses. J'ai besoin de A, de B et de Z. D'abord, j'ai besoin de Z. Z, c'est ma destination finale, c'est là où je veux aller. C'est mon cap, c'est mon rêve. C'est un peu idéaliste, c'est long terme. Peut-être j'y arriverai jamais là-bas, mais au moins ça me donne la direction. J'ai besoin de A. J'ai besoin d'en savoir où j'en suis actuellement par rapport à ce Z, ce rêve. Et j'ai besoin, à partir du moment où je sais où j'en suis, c'est quoi ma prochaine étape, mon B, le plus petit pas. Et j'ai pas besoin de tout savoir sur C, D, E, F, G, etc. Parce que ça, ça va bouger. Le monde va être mouvant. Et si je passe trop de temps à planifier le plan parfait, il ne se passera pas. Donc je fais mieux d'avoir mon Z, mon B devant moi, d'avancer vers mon B et de réévaluer les circonstances à partir de ce moment-là. Ce qui fait que je vois ça comme ça, c'est comme de la navigation. J'ai mon Z à l'horizon, il est là-bas, c'est mon étoile polaire, c'est mon phare. Je suis là et j'ai mes balises sur le chemin, progressives, à court terme. Pour moi, donc, ma vision rêvée, où j'en suis actuellement, et sans cesse, je fais ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ce qui fait que je mets mon énergie, je pars de ce que j'ai ici et j'avance au fur et à mesure. Un B, c'est un jalon, c'est court terme. C'est pas dans un an, hein, c'est court terme. C'est là, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux activer? À un mois, par exemple. C'est dans la direction de ma vision, évidemment. C'est dans ma zone de contrôle, je peux agir dessus. Ça dépend pas de plein de gens autour de moi. Je peux agir avec un verbe d'action. Et puis, ça rend la suite plus facile. C'est un petit pas qui va rendre la suite plus facile. Ça va me donner du pouvoir d'agir. Ben ça change tout parce que je suis en mouvement. Et donc j'ai une satisfaction personnelle à avancer, même si tout est chaotique autour de moi, je suis en mouvement. Ça change tout. Et le chemin se crée en avançant. Les opportunités vont se faire aussi. Et c'est pour ça que j'adore cette citation. Dans ma vie d'entrepreneur, je n'ai vécu que ça. Quand on est aligné, quand on sait que c'est le bon rêve et qu'on démarre, donc j'adore cette citation, « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. » L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Si on est aligné, qu'on se met en mouvement, alors l'univers fait en sorte que les choses se font, les bonnes rencontres se font, les alignements, les opportunités apparaissent, un peu comme par magie ou pas. Mais si on est en mouvement, dans la bonne direction, qui est une bonne direction bien discernée. Je finis rapidement avec... trois principes, me semble-t-il. Cultiver sa singularité, ça c'est essentiel aussi pour nourrir son pouvoir d'agir dans un monde incertain. Il vaut mieux travailler sur ses forces, au cœur de ce que l'on peut apporter d'unique au monde. Donc j'ai travaillé plus de 10 ans sur ce sujet chez Ticket for Change, autour des talents. Et les talents, c'est passionnant comme sujet parce que plein de gens considèrent qu'ils n'ont pas de talent. Alors que 100% des gens ont des talents. Les talents, c'est quoi ? En tout cas, c'est ma définition. Les talents, c'est des choses qu'on a d'innées en nous. C'est des dons qu'on nous a donnés. On a de la chance. Et si on les travaille et qu'on en est conscient, alors ça a beaucoup de valeur dans le monde. Et donc, pour moi, les indicateurs qui nous montrent qu'on a des talents, c'est il y a des choses, ça nous donne de l'énergie de les faire. À la fin, quand on les a faites, on a plus d'énergie qu'avant. Ça suffit pas pour que ce soit un talent, faut aussi que ça apporte de la valeur aux autres. Les autres personnes pour qui c'est plus dur de faire la même chose. Donc ça peut être, il y a des gens, ils vont être à l'aise pour avec les chiffres, pour compter, ou alors d'autres, ils vont être à l'aise avec des mots, d'autres pour véhiculer des idées complexes, d'autres pour résoudre des problèmes, d'autres pour rendre des choses belles, d'autres pour écouter en profondeur les personnes, etc. Il y a une très grande diversité de talents. On en a tous et toutes, mais jouer à l'intérieur de cette zone, ça change tout, parce que on est dans une zone où on a un potentiel d'action maximale, on a notre singularité, on apporte quelque chose d'unique au monde. Donc ça, c'est fondamental. C'est pour moi le chemin d'une vie de trouver ce qui est dans notre zone en jaune et ensuite d'essayer d'y passer le plus de temps possible. Alors ça suffit pas les talents, ce qui vient avec la singularité, le complément, c'est le collectif. Comment on peut jouer collectif? Étant donné les défis dont on parle, évidemment, rien de grand ne peut se faire seul. Et on a besoin de l'intelligence et des talents du plus grand nombre. Alors pour ça, j'aime bien ce visuel que je représente là de James Norbury. J'adore ce visuel. Donc, on a grand panda et petit dragon au-dessus. Et grand panda, il demande, mais au fond, qu'est-ce qui est le plus important ? Le voyage ou la destination ? Vous diriez quoi ? Le voyage ? Peut-être pas. Eh bien, lui répond la compagnie. Donc, est-ce que le but, c'est d'aller au résultat ? Est-ce que c'est le chemin pour y aller ? Ou est-ce que c'est avec qui on fait les choses ? Je pense que c'est un mix des trois, probablement. Enfin, chacun donne la réponse qu'il souhaite. Hein. Et c'est probablement un mix des trois, et le avec qui est fondamental. Il donne du sens à la vie de tous les jours. Toutes les études sur le bonheur montrent que le bonheur est corrélé avant tout à la qualité des relations qu'on a avec les personnes, au quotidien, la qualité des liens. Alors, je vais vite, mais aussi pour moi, sur cette idée-là, qui est pour moi fondamentale, j'amène juste un concept rapidement, qui est pour moi un concept qui est essentiel autour du collectif et l'émergence de grands changements sociétaux. C'est un concept qui me fascine et est pour moi une des clés qui peut permettre un basculement ou non de la société. Je ne sais pas si vous connaissez le point commun, un des points communs en tout cas, entre Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ, la Renaissance, 15e siècle à Florence, ou la Silicon Valley à partir des années 50. Donc ce sont des périodes de rupture, de grandes transformations, d'émergence, de grandes innovations, de personnalités et de courants d'idées qui ont transformé le monde, qui ont influencé énormément le monde et qui ont amené des nouveaux courants de pensée, des changements de paradigme au fond. Et certains ont appelé ça des sénius. Donc comment ça se fait qu'il y a des époques où il y a des émergences comme ça et d'autres où ça n'arrive pas? Donc des chercheurs ont regardé, ils appellent ça des sénius. Sénius, c'est la contraction de sin en anglais, la scène, et genius, le génie. En gros, c'est l'environnement qui crée le génie collectif. Donc à chaque fois dans ces périodes-là, il y a des grandes personnalités qui ont émergé, mais c'est pas comme ça que ça a émergé. Il n'y a pas juste eu Platon, Socrate, Aristote, ou alors Machiavel, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Ils n'ont pas émergé tout seuls. Il y a un écosystème qui était autour qui a permis l'émergence de grandes personnalités que nous, on a retenues dans l'histoire. Mais en fait, il faut retenir qu'il y avait un écosystème fertile. C'est ça le sénius. C'est quelque chose qui est très réparti, où plein de personnes avec une très grande diversité ont participé à ces moments-là. Et donc, je vais vite, mais il y a des caractéristiques communes. À chaque fois dans ces moments-là, et donc pour moi, c'est une recette de cuisine, on devrait collectivement se dire comment on peut réunir ces conditions maintenant qu'on est au courant qu'elles existent. Il y a notamment une diversité de pensées et d'expériences. À chaque fois, ça réunit des gens très différents. La Silicon Valley, il y a des geeks, il y a des ingénieurs, il y a des hippies, il y a des militaires, il y a des investisseurs au même endroit, pour un but commun. Il y a des échanges rapides. On partage les bonnes idées, on ne les garde pas, on ne garde pas les trouvailles pour soi. On les met en open source, on les diffuse pour que ça se diffuse et on bâtit sur les idées des autres. Il y a aussi une compétition saine. Hein. Léonard de Vinci, Michel-Ange, ça crée de la stimulation. Ça pousse chacun dans ses retranchements. Ça s'incarne dans des lieux iconiques. À chaque fois, il y a des rituels, une régularité et les gens se connaissent, s'apprécient parce qu'ils se retrouvent régulièrement. Et enfin, et c'est fascinant, ça émerge toujours au cœur ou après des périodes chaotiques. La Renaissance, c'est le début de la Renaissance, deux ans après le pire épisode de peste noire en Europe, à Florence. La Silicon Valley, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, juste après, c'est avec la guerre froide. Donc à chaque fois, ça émerge corrélé à des guerres ou des grandes pandémies. Et pour moi, il y a peut-être quelque chose dont on peut s'inspirer là-dedans pour être au rendez-vous des défis de l'époque et s'inspirer de comment on peut créer du génie collectif. Parce que, au fond, des périodes les plus chaotiques, ce sont des opportunités pour qu'émerge quelque chose de différent, pour qu'émerge le nouveau. Et je finirai avec ce principe. Cultiver la joie. Plus le monde est sombre, et les nouvelles difficiles à regarder quand on ouvre la télévision, plus il faut cultiver la joie. Pourquoi ? Parce que la joie, ça rend le chemin plus agréable. Donc de toute façon, on va le faire ce chemin-là, on va avancer, donc autant rendre le chemin plus agréable. Mais surtout, et pour moi, la joie, c'est plus que ça. C'est Spinoza qui nous dit ça. La joie, c'est un formidable outil parce que c'est très connecté à nos pouvoirs d'agir, à notre puissance d'agir. Il parle de puissance d'agir, de tristesse par rapport à la joie. Et la joie, c'est connecté à notre puissance d'agir. Autrement dit, quand on est dans la joie, on est dans un endroit où on peut avoir un impact positif sur le monde. Parce qu'on est au bon espace. On est dans le bon endroit. C'est un indicateur, au fond. Si on a de la joie quand on fait quelque chose, ça nous dit quelque chose, qu'on est à la bonne place. Donc c'est extraordinaire, ça. Ça nous fait du bien. Et en plus, ça veut dire qu'on est à la bonne place et qu'on peut transformer le monde. Donc c'est un formidable indicateur à suivre. Et aussi, pour moi, la joie, c'est un extraordinaire outil de leadership. Alors, c'est un gros mot, peut-être, leadership, mais... Parce que le défi aujourd'hui, c'est de rendre désirable un monde différent. De donner envie d'un modèle de société plus juste et plus durable. Et ça, on ne le fera jamais en donnant des leçons, en moralisant, en disant aux autres quoi faire. Il faut rendre désirable, donner envie de... Donc, et en montrant l'exemple, notamment. Et donc, la joie est un formidable outil pour faire ça. En plus, la joie, c'est viral, ça se diffuse. Et donc, cultiver la joie, c'est un formidable outil, je pense, des acteurs de changement pour amener un nouveau monde, qui est absolument fondamental. Sans la joie, on n'y arrivera pas. Donc, c'est pas forcément... c'est pas naïf. On peut être très lucide sur les défis du monde et cultiver la joie et une espérance ancrée dans une réalité, mais qui fait qu'on a l'espoir et l'espérance et la conviction qu'on peut s'en sortir. C'est pas... On peut être les deux. Niveau timing, est-ce que j'ai encore 3-4 minutes ? Ok. Je conclue avec deux mots. Pour moi, donc, pour récapituler, on vit un moment pour moi très singulier, de passage de monde, de bascule à venir. Et pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on peut y contribuer à notre échelle, avec nos talents propres, avec nos marges de manœuvre propres. Ça relie avec le sujet dont je viens de parler et qui peut-être est un gros mot, mais en fait pour moi il est fondamental. Et plein de personnes parlent de ce sujet de plein de manières très complexes. Pour moi c'est très simple. Le leadership, c'est la capacité à créer un futur qui n'existe pas. Ça veut dire que quand il y a une situation que l'on peut améliorer, c'est être au rendez-vous de ce qui se passe pour contribuer à créer un futur qui n'existait pas. Si on manage une équipe, si on est en charge de personnes, eh ben, il n'y a pas la confiance. Il y a une sorte de défiance, de fatigue généralisée, etc. J'en sais rien. Si on arrive à créer les conditions pour qu'il y ait une vision positive, une énergie retrouvée, une confiance, alors on a créé les conditions d'un futur qui n'existait pas. Donc c'est à toutes les échelles. Si on arrive à créer un nouveau modèle de société, alors on crée un futur qui n'existe pas. Et pour ça, donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre notre énergie pour faire émerger ce monde différent, et changer de paradigme. Et pour ça, ce que nous dit la théorie du point de bascule, c'est qu'on n'a pas besoin de 100% des personnes, en tout cas pas au début. Il y a les pionniers, les pionnières ont un rôle fondamental, parce que pour que bascule de société il y ait, il faut une minorité active extrêmement engagée. Ce qui est très important, c'est qu'elle soit dans différents mondes, le plus divers possible. Parce que ça va infuser dans plein de mondes, le monde de l'entreprise, le monde associatif, le monde spirituel, le monde, le secteur public. On a besoin que ce soit dans toutes les sphères. Mais il faut une minorité, alors selon les études, entre 10 et 25%, etc., pour le point de bascule. Mais autrement dit, il faut des oiseaux rares, des pionniers, des pionnières, qui sont les premiers qui vont rendre la suite possible pour les autres. Et ces gens-là ont un rôle démultiplicateur extrêmement important. Et j'ai la chance d'interagir avec plein de monde, plein de personnes engagées, et je peux vous dire que même si on n'a pas l'impression qu'on avance sur ce curseur, en fait... Enfin, ce que je vois au quotidien, c'est qu'il y a une conscience qui grandit, qui, je sais pas où on est forcément ici. Je sais pas exactement où on est, mais je peux vous dire qu'elle grandit chemin faisant sur tous les territoires. Après, parfois, il m'arrive aussi de me dire, ouais, mais est-ce qu'on va au bon rythme? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va être possible? Et du coup, j'en viens aussi, comme tout le monde, à douter et me dire, bon, est-ce que, au fond, c'est que théorique, est-ce qu'on peut y arriver? Et pour conclure, je finirai avec cette citation qui me remet toujours de l'espoir. Donc c'est une citation d'un prix Nobel de chimie, Ilya Prigogine. Il nous dit « Lorsqu'un système est loin de l'équilibre, de petits îlots de cohérence, dans une mer de chaos, ont la capacité d'élever l'ensemble du système vers un ordre supérieur. » Autrement dit, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on fait des choses trop petites, à la marge, que c'est insignifiant par rapport à l'échelle des enjeux, pour moi, on préfigure peut-être un nouveau monde, un monde différent. Avec, quand on y met une énergie, une intention particulière, avec des valeurs particulières, c'est ça l'image, moi, qui me vient. Ah ben, elle vient pas. Bah, c'est pas grave, elle viendra après. Plein d'îlots de cohérence qui... je vais voir si je peux la passer. Il veut pas, tant pis, c'est un signe. Plein de petits îlots de cohérence qui, si on arrive à les mailler ensemble, peuvent permettre le passage vers le point de bascule. Donc, même si c'est insignifiant, le fait de faire ce que l'on fait à notre échelle et de mailler les initiatives, à un moment, ça peut contribuer à ce point de bascule et à l'émergence d'une société plus juste et plus durable. Ça, le visuel.
Alors d'abord, si vous voulez bien, je vais faire un petit point agenda avec Mathieu parce que je voudrais faire un petit atelier pour Christus parce que nous, on doit faire quelque chose comme 2000 euros de marge annuelle. Et donc, j'aimerais bien qu'on relance ça. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'éléments. On a de la diversité vu qu'on est deux, un jésuite et pas jésuite. Donc, ça fait de la diversité. On est quand même très joyeux déjà. Voilà, je pense qu'il faut qu'on cherche encore un petit peu. Et tu vas peut-être nous aider. Alors, peut-être, je remarque quelque chose, c'est que tout ce que tu nous as dit, qui est très clair et qui est très inspirant, je pense, pour un collectif, c'est pas forcément de la même façon qu'on envisagerait les choses pour une décision personnelle. Voilà. Donc, moi, j'ai peu de connaissances de la vie de l'entreprise, de la façon dont on prend des décisions en entreprise parce qu'on a une raison d'être à définir, une stratégie à adopter, un marché à connaître. Donc, c'est pas du tout là-dessus que je vais réagir. En revanche, évidemment, je pense que dans la salle, il va y avoir un certain nombre de questions qui portent tout particulièrement sur ces questions-là. Alors, je remarque une chose, c'est ton utilisation tout à fait intéressante des schémas. Et là, c'est un des premiers points de ressemblance que tu as avec Ignace, mais tu ne le sais peut-être pas, Ignace de Loyola, qui, comme un homme de son temps, est quelqu'un qui était passionné de pédagogie et qui cherchait comment accompagner avec ce qu'on était en train de trouver. Et il y a quelque chose qui venait de la spiritualité du Moyen-Âge, qui était comment est-ce qu'on peut visualiser quelque chose. Et il a réutilisé ça dans ses exercices spirituels, au début des exercices spirituels, quand il dit qu'il faut reprendre un exercice, il y a un schéma avec des petites lignes, parce qu'il pense que ça va aider. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut retenir j'allais dire, même pas du contenu, mais de la façon dont tu nous as présenté toutes tes trouvailles et toute cette invitation à changer, c'est qu'il faut chercher ce qui nous aide, s'appuyer notamment sur des petits schémas. Et c'est vrai qu'on est dans un monde des images. Peut-être qu'on a été un peu écrasé de textes et de théories et qu'on a besoin de sortir de ça. Et ça, c'est peut-être une chose que... Tu le dis pas, mais tu le mets en pratique et je te remercie pour ça. Et puis, je vais commencer par la fin sur cultiver la joie, parce que c'est sans doute là où il y a l'écho le plus fort. Il y a quelque chose qui est paru très évident à Ignace de Loyola. Alors, je vais beaucoup parler d'Ignace de Loyola. Tu sais pourquoi, parce que j'allais dire, on est là aussi parce que tous, à un moment ou à un autre, on s'est dit, ce bonhomme-là, il a quelque chose à me dire. voilà, dans la façon dont j'ai envie de vivre en chrétien. Donc Ignace de Loyola identifie quelque chose de très clair, c'est que si on n'est pas dans la joie, il n'appelle pas ça la joie, il appelle ça la consolation, on ne fait rien. Il ne va pas parler de moteur, etc., mais on n'avance pas s'il n'y a pas cette source, ce contact avec une source qui est en fait le fait de sentir que la relation avec Dieu, elle est sentie, elle est présente. Ça, il n'y a pas de décision possible. Voilà, il n'y a pas de décision possible. Alors la question c'est, est-ce que la joie se cultive ? Oui, elle se cultive, il y a des tas de choses qu'on peut faire. En même temps, quelque chose que nous dit bien Ignace et qui est plus généralement vrai dans la spiritualité chrétienne, c'est que la joie, on va dire la consolation, elle se reçoit. Elle se reçoit sans qu'on puisse forcément faire grand-chose là-dessus. On n'a pas une maîtrise entière de ce mouvement qui va nous faire nous lever, agir, aller chercher effectivement chez les autres ceux qui vont agir avec nous. C'est quelque chose qui est mystérieux et parfois assez décourageant, en fait, on peut dire, parce que je me dis, mais je fais tout ce qu'il faut, j'ai bien suivi la règle, et pourtant, ça démarre pas. Il y a cette dynamique-là entre qu'est-ce que je fais pour que ça change et ça change. Il y a quelque chose entre les deux, voilà, qui nous échappe. Alors, pourquoi ça nous échappe? Ça, c'est la grande question. Là, je voudrais parler du chaos. Quand tu nous as montré le dessin de chaos, on a vu que le chaos, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est le monde tel qu'il est maintenant. Et là, encore une fois, un écho très fort avec l'époque d'Ignace, époque de changement. Ils étaient dans un changement de monde. Alors, tu as parlé de la Renaissance à Florence. En fait, on peut dire la Renaissance, c'est un énorme changement qui prend 150 ans, 200 ans. Chaque pays le vit différemment. Il y a une coexistence de visions du monde qui sont absolument contradictoires entre elles. Et voilà. Et Ignace, il est là-dedans. Alors, est-ce que c'est un homme nouveau, du nouveau monde, ou un homme de l'ancien monde? C'est un peu tout à la fois. Et en fait, ça, c'est quand tu nous as montré la zone de turbulence, là. Voilà. Alors, ça veut dire que ce chaos qui est à l'extérieur, le monde dans lequel on est, c'est le chaos intérieur aussi. Mais ce chaos à l'intérieur, c'est pas seulement le reflet de ce monde confus. Donc là, il y a peut-être une autre façon de comprendre le chaos, on va dire une façon spirituelle de comprendre le chaos à l'intérieur. La vie intérieure, c'est un vaste foutoir, on est bien d'accord. Moi, je suis toujours très étonnée, tu me diras ce que tu en penses, quand dans voilà, les magazines ou les pubs, on dit « retrouvez en vous le silence et la paix intérieure ». Je dis « ah bon ?» Où ça, ils ont vu qu'à l'intérieur, c'était calme, bien ordonné C'est complètement le bazar à l'intérieur. Sinon, il n'y aurait pas besoin de discerner, il n'y aurait pas besoin de se donner des règles de vie, il n'y aurait pas besoin de cette hygiène dont tu parles, qui est à la fois l'hygiène du corps, de l'esprit, de l'âme, quand on cherche une relation avec Dieu. Donc, c'est le foutoir, c'est le chaos. Alors, dans ce chaos, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un. Il n'y a pas seulement quelqu'un, il y a quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus grand que nous et qui est aussi quelqu'un qui n'est pas du tout nous. Et j'allais dire, tout ce que tu nous as dit, je pense que ça reste parfaitement juste, parfaitement compréhensible et même quelque chose qu'on sent, enfin qu'on aimerait pouvoir sentir. Et quand on a la foi dans le Christ... voilà, fils du Dieu vivant, on sait qu'il y a une voix et qu'en fait, c'est jamais le vide à l'intérieur. C'est jamais le vide. Il y a autre chose, un autre quelqu'un, malheureusement, dans cet intérieur, dans ce chaos, c'est celui qu'Ignace appelle l'ennemi de la nature humaine. Alors, c'est qui cet ennemi de la nature humaine? C'est celui qui risque de mettre à plat tous tes slides, mon pauvre Mathieu. Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné comme objectif de casser notre joie. Voilà, c'est ça son but, son seul et unique but, c'est de casser la joie qui nous vient de nous sentir uniques et aimés de Dieu et appelés à collaborer avec lui à un monde plus juste, comme tu dis, à une plus grande gloire de Dieu. Mais ce qui veut dire, voilà, toi tu le dis avec tes mots, un mieux-être, de vivre dans le donut, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a cet ennemi de la nature humaine qui fait que le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Vous avez reconnu. Merci. Voilà, Saint Paul. Alors ça, ça complique un petit peu tout. Ça complique un petit peu tout parce que malgré toute notre bonne volonté, c'est vraiment une expression géniale, notre bonne volonté qui peut être, comme tu le dis, extrêmement puissante, il y a ce combat à mener tous les jours, en fait. Voilà, ce combat à mener tous les jours et dont on ne connaît pas l'issue. Alors, tu vois, j'ai réagi sur le témoignage que tu as fait au début, ce sentiment qu'il y a un moment, il n'y avait plus de fuel. Tu es arrivé au bout d'un premier souffle. Et ce que je voudrais savoir, c'est si tu t'es dit d'avance que ce vide, il allait être fertile ou si tu n'en étais pas bien sûr.
J'en avais l'intuition. J'en avais aucune certitude. Mais je pouvais continuer sans le faire, mais je savais que ce serait beaucoup plus fructueux, en fait, qu'il y aurait quelque chose, que mon chemin c'était de le faire et sans certitude de où ça allait amener. Mais j'avais l'intuition de. Et c'est très inconfortable.
Alors c'est inconfortable. Alors il y a un cran de plus, j'allais dire dans le chaos, dans le brouillard, et c'est quelque chose qu'on peut vivre, mais là je vais parler de personnes dont on sait qu'ils l'ont vécu, c'est les amis de Jésus une fois qu'il a été crucifié. Alors là c'était vide mais pas fertile du tout. Ils avaient attendu quelqu'un qui allait virer les Romains, qui devait être le Messie attendu, et il est crucifié puis c'est fini. Et ils ne savent absolument pas ce qui va sortir de là. Et ça, c'est quelque chose qui est une expérience de la vie humaine. Je ne sais pas si à l'échelle de l'entreprise, c'est quelque chose qui peut arriver. Ça s'appelle déposer le bilan, j'imagine. Et la foi chrétienne, le propre de l'espérance chrétienne, et qui peut même être une joie, de façon très paradoxale, c'est de croire que du milieu du chaos, il y a quelque chose de radicalement autre, qui est quelque chose dont on ne peut même pas avoir l'intuition, et qui est la résurrection. La résurrection, personne ne l'avait imaginé. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que Jésus leur avait dit, je vais ressusciter. Mais c'était pas, peut-être, dans ton expression, c'était pas dans leur paradigme. Mais donc, leur changement de paradigme, à eux, il est passé par un abandon complet, total de tout ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'est pas leur imagination qui a été le moteur du changement, ce n'est pas leur espoir qui a été le moteur du changement, c'est quelque chose qui est venu complètement de l'extérieur. Voilà, alors je peux dire que c'est quelque chose que la vie spirituelle et toute une tradition spirituelle chrétienne nous aide à vivre, peut-être à comprendre. À l'échelle du monde, je crois que ce sentiment qu'on a les mains vides, une impuissance totale devant ce qui est en train de se passer, c'est aussi quelque chose à traverser dans lequel on peut rester longtemps. Ça arrive, quoi. Ça arrive d'y rester. Et puis peut-être, j'allais dire que dans la vie de beaucoup, il y aura pas, ils ne vivront pas cette issue. Mais tu as t'as bien dit, en fait. Là, tu nous as parlé à nous, on est très, très privilégiés parce qu'en fait, on est dans des situations où nous avons la possibilité de retrouver ce pouvoir d'agir. Et pour d'autres qui ne l'ont pas et qui ne l'auront sans doute jamais. Le jour où les eaux vont monter et qu'il y a des populations entières qui vont perdre tout leur gagne-pain parce que les rizières vont être inondées, etc. Ce pouvoir d'agir, il pourra pas faire la courbe de croissance, rien du tout. Voilà. Donc là, il y a un mystère aussi qui est de vivre collectivement une traversée. Dans le langage chrétien, on dirait une mort et une résurrection, sans avoir, en acceptant que ce n'est peut-être pas de nous que va venir le nouveau. Voilà. Et alors, j'allais dire. C'est un petit changement et en même temps, je crois que ça change aussi beaucoup de choses dans la façon dont on s'oriente dans la vie. Et quand on... Voilà, si on regarde la trajectoire d'Ignace de Loyola, il y a eu une conversion d'énergie, en fait. Il avait imaginé quelque chose et puis il est parti complètement vers autre chose. En fait, lui, la façon dont il rend compte de cette conversion, de ce changement... c'est pas une réorientation de l'énergie, c'est qu'il a, reçu. Voilà. Il a reçu et il a reçu quelque chose qui était entièrement nouveau, qui s'est servi de qui il était. Mais ça, dans la relation avec Dieu, quelque chose s'est passé. Donc, peut-être que c'est simplement, j'allais dire, ce grand personnage-là, ce grand mystère qui est Dieu, qui à la fois... j'allais dire, peut porter tout ce que tu nous as dit et en même temps le transformer, le transformer beaucoup. Qu'est-ce que je dirais pour terminer, peut-être encore sur cette question de la conversion. En fait, tu nous décris... Alors, moi, j'aime bien le mot croissance. Je ne suis pas gênée avec le mot croissance parce que c'est le mouvement de la vie. On est petit et puis on devient grand. Et je ne crois pas que le fait qu'on perde en créativité, ça soit une perte sèche. Se conformer, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, dans le collectif, il y a ça. Quelquefois, dans les décisions qu'on prend collectivement, ça ressemble à un compromis mou. Oui, mais il y a tout le monde. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas aussi créatif que le truc qu'on aurait trouvé tout seul. Mais cette idée de la conversion ou du changement, au tout début de l'évangile de Marc, c'est quasiment la première parole de Jésus, c'est « convertissez-vous ». Juste après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus se met à parcourir le territoire et puis il dit « convertissez-vous ». Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la nouvelle traduction par Frédéric Boyer de l'Évangile. Il a choisi de traduire ce « convertissez-vous » en « changer ». Puis alors, comme c'est l'Évangile de Marc et que ça revient comme ça, c'est « changer, changer, changer ». Mais changer quoi ? Voilà. Et donc, c'est vraiment, j'allais dire, le mot d'ordre. Tu vois, dans ton livre, tu parles de, tu vois, tu utilises le terme de mantra. Bon, c'est un appel « changer ». Et sauf que Jésus ne donne aucune méthode, aucune, jamais. Et que ceux qui pensaient avoir la méthode, ils viennent vers lui, les premiers qui viennent vers lui, en fait, c'est des juifs, ils ont reçu la loi, ça fait un moment qu'on leur dit comment faire pour changer, pour devenir meilleur. Je fais ça. Oui, mais c'est pas ça, en fait. Ce qu'il faut faire pour changer, j'allais dire pour devenir meilleur, c'est être comme le Christ. Il dit, en fait, passez par moi, vivez comme moi, et jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix. Alors ça fait voir aussi sous une autre lumière tout ce qu'on peut dire sur la capacité qu'on a à se changer, et puis aussi à changer le monde. Et ça, c'est pas du tout pour faire marabajois, c'est... même si ça peut donner cette impression, c'est que la puissance de vie qui peut venir par surprise sans qu'on n'y puisse rien, elle est absolument phénoménale. Elle est bien au-delà de ce qu'on aura pu faire, de notre propre volonté, et puis même en s'y mettant à plusieurs et même tous ensemble. Voilà, donc encore une puissance d'agir, mais qui n'est pas de notre ressort, et que voilà, on peut mettre tout en œuvre dans sa vie pour en fait voilà, pour lui laisser la place, la laisser agir. Voilà, non pas agir, pas uniquement agir, mais laisser agir. Alors c'est vrai que là je suis très tentée d'essayer de sortir la maxime attribuée à Evenessi. Donc je tente. Donc c'est une maxime un petit peu compliquée attribuée à un jésuite qui prend les choses complètement à l'envers. Et puis je vous laisserai ensuite méditer là-dessus et poser vos questions à Mathieu. Donc voilà ce que ça dit, je pense. Prie comme si tout dépendait de toi et rien de Dieu, et agis comme si, je te surveille Olivier, agis comme si rien ne dépendait de toi et tout de Dieu. C'est-à-dire que dans la prière où on se dit que, bon ben, on laisse faire Dieu, en fait c'est là où il faut être, d'une certaine façon, actif, c'est-à-dire une prière qui cherche, qui discerne, et dans l'action, là où on se dit, allez, là c'est mon tour, non, là il faut laisser faire. Grand paradoxe, qui est celui de la vie spirituelle.
Juste pour dire merci de l'éclairage et du rebond et c'est super intéressant de voir les fils tirés, la lecture et je suis curieux des questions que ça émerge, que ça fait émerger, que ce soit sur ce rebond ou sur les points d'avant. Donc, merci du partage.
Alors, je suis à votre disposition pour passer le micro aux personnes qui ont des questions.
Bonsoir, merci à tous les deux. Mathieu, vous avez parlé de beaucoup d'entrepreneurs que vous avez accompagnés, et donc c'est des entrepreneurs qui avaient des idées et un cap vers lequel se diriger et un premier pas concret pour y arriver. Aujourd'hui, dans quel domaine, dans quel secteur particulier il manquerait justement des entrepreneurs qui se lèvent ? Est-ce qu'il y a des zones de vide ou on manque de cap, de projet ?
Merci. Dans tous les domaines. C'est-à-dire que pour moi, si je fais une référence avec la Renaissance dont j'ai parlé, etc., pour moi, il y a plein de terra incognita, de plein de domaines à explorer et à défricher. Par exemple, je ne sais pas, habiter le monde autrement avec comment on fait de la construction écologiquement viable et durable, comment on recrée du lien social partout et de la solidarité, les sujets d'agriculture, d'alimentation, comment on transforme l'éducation pour que ce soit, que ça permette vraiment aux enfants et à tous les âges en fait de grandir, d'être plus à l'aise avec le monde actuel et puis de pouvoir le transformer, que ce soit les énergies, comment on fait des énergies vraiment renouvelables à grande échelle. Vraiment, il y a tellement de sujets où le mieux vieillir pour les personnes âgées, avec des défis qui vont être énormes. Donc en fait, il y a des défis dans tous les secteurs. Et par exemple, pour se nourrir, vous pouvez aller voir une newsletter qui s'appelle Le Plongeoir. Il décrypte des secteurs dans lesquels il y a plein de besoins. Voilà. Et moi, mon invitation, c'est de trouver le secteur où ça résonne. Où je me dis, ça me parle, ça me touche, je sais pas pourquoi, ça me touche. Et puis peut-être je vais avoir une contribution. Enfin, c'est le croisement des deux, quoi. Si c'est un truc qui me touche, dans lequel j'ai aucun domaine de connaissance, soit j'ai envie d'y m'y dédier pleinement, d'apprendre, etc. Et d'ailleurs, ça peut être très... on a besoin de gens qui arrivent avec un regard neuf. Par exemple, le professeur Younous, je le mettais en photo au début, il a inventé le microcrédit. Il a dit, ça n'aurait jamais été un banquier qui aurait inventé le microcrédit. C'est complètement absurde d'inventer le microcrédit, la banque des pauvres. Parce que les banquiers, ils disent, non, on ne peut pas financer les pauvres. Donc, s'il n'avait pas un regard neuf, naïf, il n'aurait pas inventé une manière différente de faire. Donc, voilà, quel est parmi tous les défis,
celui qui te, qui vous touche.
On dirait, avec le vocabulaire ignatien, là où on a du goût.
Thérèse, je voulais, j'aimais bien l'idée du premier petit pas qu'on peut faire vers sa vision. Je trouve que la joie, d'accord, elle nous est donnée, mais on peut la nourrir vraiment. Et moi, je rajouterais un mot qui est le mot gratitude ou remerciement, et qu'à chaque petit pas, on peut se féliciter d'être là, arrivé, mais aussi remercier tous ceux qui nous ont aidés, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours des rencontres. Pour moi, les projets, c'est des rencontres. C'est ce qui fait que ça émerge et qu'on avance. Et pour moi, c'est très, très important dans les projets que les gens entendent merci, parce que valoriser l'autre, d'abord ça nous valorise aussi, ça valorise le projet, mais c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un trampoline pour avancer après, et je trouve que le mot gratitude, c'est un mot qui me plaît beaucoup. J'ai rien contre la croissance, mais c'est un mot valise qui est mal utilisé aujourd'hui et qui veut dire autre chose. Donc moi je prends un autre mot, je prends plus ce mot-là, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas de croissance de l'être, de soi. Mais ouais, je préfère le mot épanouissement, je préfère le mot évolution, je préfère d'autres mots que le mot croissance aujourd'hui. Mais voilà. Donc je rajouterais bien le mot gratitude dans tous ces beaux schémas. Et merci de la simplicité de ces schémas où avec, en gros, une couleur, le jaune, vous montrez beaucoup de choses.
Bonjour, Alban. Une question peut-être sur la dimension du leadership pour pouvoir mener du changement, qui est un sujet peut-être qui nous travaille pas mal en Église, parce qu'on a connu des leaders un peu marquants ces dernières années, l'abbé Pierre, Jean Vanier, qui ont apporté des changements significatifs dans le monde, et on voit la dimension d'attrait, de séduction et du coup de pouvoir qui peut y être lié. Vous, de votre expérience, de là où vous êtes présent, c'est quand même des lieux qui sont aujourd'hui porteurs de sens, qui sont enthousiasmants pour du monde qui se retrouve derrière. Comment est-ce qu'on peut porter de tels projets avec enthousiasme sans se retrouver dans des situations de domination, de pouvoir, d'abus qui se reproduisent du coup en interne ?
Question complexe. Je connais pas de drames de ce type dans l'entourage des projets auxquels j'ai touché. Parfois dans le monde associatif, comme il y a moins de moyens, il y a aussi des difficultés. C'est pas rose partout non plus, parce que il y a des gens, ils vont chercher aussi du pouvoir, une certaine manière d'avoir de l'ego, etc. Pour moi, c'est pour ça que c'est aussi important d'être aligné et que ce soit pas pour se nourrir soi-même. Mais que ce soit être au service de quelque chose de plus grand que soi, tout en étant nourri pour pas qu'il y ait un sacrifice trop grand où on irait se nourrir par ailleurs, en fait. C'est pour ça que l'alignement, il est important de connaître l'ensemble de ses besoins, aussi économiques. Là, je parle de ça parce que c'est ça parfois aussi qui va créer du sacrifice et donc des compensations. Pour que le leadership soit ajusté. Je pense que c'est important. Et pour moi, je suis pas. En fait, pour moi, un des problèmes, c'est qu'il y a un monde, par exemple, le monde de l'entreprise, où il y a beaucoup de moyens et on pense pas forcément à une utilité sociale, même si c'est de plus en plus le cas. Un monde associatif qui est très tourné vers les autres, mais qui a pas beaucoup de moyens. Pour moi, il faut inventer quelque chose de nouveau, plus aligné, où les moyens sont alignés avec l'utilité sociale. Ça permettrait d'enlever un certain nombre de cas. De ce point de vue-là, je pense.
Merci beaucoup pour vos interventions très complémentaires. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui vous porte à croire que l'ancien monde est en déclin. J'entends cette focus sur les îlots de cohérence qui peuvent nous donner de l'espoir, voire de l'espérance, en tout cas au niveau, à l'échelle de la foi. Moi, ce que je vois, par exemple, dans le monde économique, c'est que l'ESS existe depuis une cinquantaine d'années et que, en fait, le système capitaliste dominant actuel n'a fait que grandir. Et même que l'ESS est d'une certaine manière en crise aujourd'hui en France, en crise de financement. On voit plein d'assos qui sont obligés de virer plein de gens et de mettre la clé sous la porte et qui est même perfusé en termes de financement par le modèle dominant. Donc moi, je suis très curieuse d'avoir vos clés qui permettent de se dire, en fait, c'est le modèle de l'ESS qui correspond peut-être le plus à ce modèle en croissance qu'on aimerait voir venir à minima d'un point de vue du système économique. Moi, je le vois pas forcément en croissance, ou même je ne vois pas plutôt le modèle dominant, modèle économique dominant en décroissance, mais plutôt en croissance, quoi.
Oui, merci de la question. Si vous êtes OK, je vais m'appuyer sur une petite chose complémentaire qui est là. Et pourquoi je pense que... j'espère et je crois que l'on avance vers le changement de paradigme. Je m'appuie là-dessus parce que donc ça c'est changement de paradigme, j'en ai parlé, c'est les manières de voir le monde, et les manières de penser et de décider. Et à l'origine c'est Thomas Kuhn, historien des sciences, et donc qui a travaillé aussi comment ça se passe les changements de paradigme, notamment dans la science, en physique, en chimie, etc. Mais pas que, aussi pour les sciences sociales. Et donc il raconte qu'il y a toujours quatre étapes. Je vais vite, mais en gros, on part de en haut là. Ce qu'il appelle la science normale, c'est le paradigme actuel. C'est on est dans un mode de fonctionnement, on s'en rend pas compte, tout fonctionne comme ça. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des anomalies, c'est-à-dire qu'il y a des trucs dont notre système, on n'en veut pas, mais ça émerge. On dépasse les limites planétaires, problèmes de santé mentale, les inégalités insoutenables, etc. Donc il y a des anomalies qui deviennent flagrantes. Et ensuite s'ouvre ce qu'il appelle une phase de recherche extraordinaire, qui est un moment très confusant parce que plein de gens y vont de leur tentative de trouver des alternatives. Et pour moi, en fait, on en est là. C'est que, en fait, oui, il y a l'ESS qui est pionnière depuis 200 ans avec l'économie sociale, avec l'économie solidaire depuis les années 60, 70, 80. Mais il y a aussi tous les mouvements, les entreprises. En fait, il y a confusion parce qu'il y a prolifération. Donc, il y a les entreprises à mission, les bicorps, la comptabilité en triple capital, la finance verte, l'investissement socialement responsable, la post-croissance, l'économie régénérative, l'économie du donut, les normes ESG, j'en passe. Enfin, ce que je veux illustrer par ça, c'est qu'il y a énormément de personnes qui cherchent des manières différentes de réconcilier économique, sociale, environnementale. Probablement l'ESS est parmi les pionniers, mais il y en a plein d'autres, à plein de niveaux. Et ce moment-là, il peut être très confusant parce qu'on voit rien qui se cristallise. On a l'impression que, oui, il y a plein de normes nouvelles, il y a plein d'initiatives, mais ça reste petit. Et il y a changement de paradigme lorsque ça se cristallise et ça dépasse les résistances de l'ancien modèle. Et pour moi, on est dans ce moment-là où les résistances sont bien plus fortes. Ça veut dire que, pour moi, depuis, par exemple, 5 ans, le modèle actuel est plus fort. Mais c'est normal, il se rétracte, il se défend, entre guillemets. Ça veut dire que, pour moi, Trump, par exemple, c'est une caricature du modèle actuel. C'est le mauvais archétype. C'est la domination économique, la domination du vivant. C'est le toujours plus vite dans sa caricature. Ça devient tellement flagrant qu'on même des partisans du modèle actuel vont dire « Mais non, on ne se reconnaît pas là-dedans, tellement c'est flagrant que c'est une caricature. » Et donc, il y a changement de paradigme. Quand ça se cristallise, que l'on ne voit pas être forcément tout de suite, mais il y a une prolifération qui est en cours. Donc c'est un signal qu'on avance. Donc peut-être on est dans la recherche extraordinaire. Et alors à un moment, peut-être ça bascule si ça correspond mieux à nos besoins et c'est un choix de société qu'on fait. Et ça peut se faire d'un coup. Donc c'est un parti pris, hein, ça regarde sur le monde. Hein. Mais quand je me prends du recul, quand je regarde comment se jouent les changements de paradigme, alors je me dis qu'on est peut-être en recherche extraordinaire et que les résistances du système sont plus fortes que jamais. Donc c'est un signal qu'on avance peut-être. C'est une interprétation que je donne. On peut y croire, on peut pas y croire. En tout cas, j'en fais la mienne en me disant que peut-être on est des chercheurs extraordinaires et qu'on a un rôle à jouer.
Je je reviens sur le panda et le dinosaure ou le dragon, je ne sais plus, et ce voyage, cette destination et cette question et la réponse qui est la compagnie, c'est ça?
Oui.
Je l'aime assez bien, et ça la vertu de la simplicité. Je pense que, mais je ne sais pas si dans vos expériences vous en avez des exemples, que la compagnie doit inclure ceux qui sont aujourd'hui en dehors du système. C'est qu'on n'avancera pas sans eux. On n'avancera pas dans la bonne destination, vers la bonne direction, sans les plus fragiles, y compris l'environnement. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut les faire représenter, mais sans ceux qui sont aujourd'hui exclus d'un système qui ne marche plus, me semble-t-il. Et je ne sais pas si vous en avez des expériences.
Bah, absolument. Je pense que c'est plus difficile parce que ça prend plus de temps. Parce qu'on est avec l'altérité, qu'il faut créer la bonne relation. C'est plus facile d'être avec des gens qui vont penser comme nous, qui vont aller plus vite, entre guillemets, parce qu'on est plus pareil. Mais effectivement. Et même, je pense qu'il y en a qui cherchent à... Vous mentionnez aussi la nature, le vivant. Il y a des initiatives qui visent à mettre des représentants de la nature au conseil d'administration d'entreprise. Pour porter la voix de la nature dans les grandes décisions. Donc c'est porter la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas, qui peuvent être les plus démunis, mais aussi du vivant, pour en fait prendre en compte l'ensemble des intérêts et des parties prenantes essentielles. Ouais. Donc je pense qu'il faut aller vers ça. Est-ce que c'est simple, est-ce que c'est facile? Pas forcément, mais encore une fois, il y a de la recherche extraordinaire avec la nature au bord, etc., qui sont des signaux qu'il y a des gens qui testent des choses différentes, et peut-être qu'à un moment, ça va devenir la norme, la nouvelle norme, peut-être.
Je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a des choses qui sont en gestation, et ce que l'on voit, c'est la difficulté qu'a l'ESS avec... Voilà, des projets qui ont du mal à être financés, en particulier les effets de levier du développement lorsqu'on a passé la première étape. Mais pour travailler auprès de grandes familles, je peux vous dire qu'il y a dans les réflexions familiales, portées aussi par la jeune génération, mais pas que, aussi par une génération plus ancienne qui est très soucieuse du monde de demain pour leurs petits-enfants. Et on voit véritablement des réflexions quant à l'investissement sur la manière dont on peut porter des sujets qui ont du sens dans le patrimoine et la finalité des patrimoines des familles. Voilà. Donc je voulais juste rebondir par rapport à cette inquiétude qui est réelle, qui est visible, mais qui pour autant, voilà, il y a des solutions, il y a des réflexions très fortes qui sont menées. Voilà. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on arrivera à une véritable concrétisation suffisante, mais en tout cas des choses se font. Mathieu, je crois que tu connais bien aussi ces sujets.
Merci. Et je pense qu'il y a la prise de conscience qui est de plus en plus grande. C'est le rythme du passage à l'action qui n'est pas assez rapide, élevé par rapport aux enjeux. Mais j'aime bien la formule parce que c'est ça, c'est en gestation. À nous d'accélérer cette concrétisation pour le coup. De passer de cette conscience ou de cette intention à vraiment la transformation des choses. C'est ça qui... Et là, pour le coup, ce qui est grave, c'est qu'il y a un recul des actions depuis 2-3 ans, avec le retour de Trump notamment. Et du coup, un backlash écologique, etc. Mais même aussi sur les sujets de solidarité sociaux. Mais en fait, pour moi, j'ai la croyance que c'est temporaire et que ça va revenir. Il faudra être prêt pour les moments... On va avoir besoin de retisser le lien et de réinvestir sur ces sujets-là. Et malheureusement, il y a trop d'acteurs économiques qui sont un peu trop girouettes et qui suivent les vents comme ça. Mais c'est pour ça qu'aussi la société civile doit être solide dans ces moments-là. On la soutienne mieux avec plus de moyens.
Tu viens de parler de moyens. Donc, qu'est-ce que tu dis à des entrepreneurs ou des personnes de bonne volonté qui veulent s'investir mais qui n'ont pas les moyens, soit parce que plus de financement, soit parce que individuellement, tu en parlais tout à l'heure, en fait, il y a une tension entre pouvoir avoir un salaire décent, vivre un emploi et en même temps vouloir se lancer, mais avec des modèles qui marchent plus. Moi, je côtoie aussi des personnes. Qui sont dans des start-up, donc qui mettent la clé sous la porte et qui, malgré toutes leurs convictions, etc., sont obligés de reprendre un job dans l'économie classique pour s'en sortir. Donc, quelque part, tu nous dis tenir dans la tempête un petit peu, vu que ça passe. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, voilà, dans cette période sans moyens, finalement?
C'était un des points du début, c'est comme on pense ces modèles économiques. Il y avait une première remarque qui était autour de ça, mais je crois que le défi, c'est d'inventer des modèles économiques qui génèrent suffisamment de ressources et sont alignés pour avoir un impact social environnemental. Et trop souvent, ils sont scindés. On a l'un qui génère beaucoup de moyens, mais qui n'est pas forcément un impact positif dans le monde, voire un impact négatif, et d'autre part, des actions à impact vraiment positif, mais qui manque cruellement de moyens. Donc, il faut inventer cet entre-deux qui réunit le meilleur des deux. Après, c'est du pragmatisme. Effectivement, quand on est entrepreneur, on a besoin des moyens pour fonctionner. Donc, en fait, c'est un pari aussi sur l'avenir. Si on n'a plus les ressources et on ne peut plus continuer, évidemment, il ne faut pas se mettre à risque et foncer dans le mur personnellement. Ça, c'est évident. Il y a peut-être d'autres manières de s'investir. À un moment, en étant bénévole, en donnant du temps, en aidant d'autres projets, etc. Après, je pense que l'économie et le monde changera lorsqu'il y aura suffisamment de personnes qui dédient leur temps de travail à temps plein au changement du monde. C'est comme ça que le monde changera. Ça veut dire que s'il y a un point de bascule du nombre de personnes qui dédient leurs 80 000 heures dans leur vie sur ces défis-là, c'est là où ça basculera. Donc, peut-être ponctuellement, faut s'adapter, etc. Mais la société ne changera que qu'on sera une minorité active, extrêmement engagée, suffisamment nombreuse dans différents mondes. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre toute notre ingéniosité à inventer des nouveaux modèles économiques et qu'on a besoin des moyens peut-être de familles actionnaires qui ont plus la vision du temps long, les moyens de grands groupes en partenaire. On a besoin de tout le monde, de l'État en soutien, même s'il a moins de moyens. On a besoin de travailler avec tout le monde. Donc peut-être qu'il faut s'adapter ponctuellement, mais il ne faut pas perdre ce cap.
Est-ce qu'il y a des sinus à Paris en ce moment? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est avec le recul qu'on dit « Ah ben, ils étaient là, les génies ». Mais comment on peut savoir Peut-être que j'y suis pas parce que voilà, je suis pas un génie. Mais...
je pense qu'il y a plein d'endroits qui n'ont pas forcément la conscience d'eux-mêmes. Par exemple, moi, je travaille à Climate House, un nom en anglais qui veut dire la maison du climat qui est à Paris dans le sentier. Il n'y a que des acteurs engagés autour des problématiques liées à l'environnement et pour certains aussi aux enjeux sociaux. Là, je pense qu'il y a un bout de sinus, pour le coup. Pour qu'un sinus se crée, il faut qu'il y ait les bonnes personnes, mais les bonnes interactions. Ça, c'est aussi un art de créer ça. Enfin, ça fait partie des expérimentations que je mène avec certains, c'est de créer ces endroits-là, de participer. D'ailleurs, ma prochaine article sera sur ce sujet-là de sinus. Sur ma newsletter qui s'appelle Redessiner le monde. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits à Paris où il y a des chercheurs extraordinaires qui essaient de se rassembler. Le problème, c'est que souvent, ils sont que dans un monde. Ce qu'il faut, c'est l'intermonde. Il faut qu'il y ait des gens des grandes boîtes, il faut qu'il y ait des gens du secteur public, il faut qu'il y ait des activistes, il faut qu'il y ait des gens du secteur associatif. Il faut que ces mondes se rencontrent, qu'ils travaillent sur des défis ensemble. Souvent, on est trop silotés.
Alors, peut-être qu'il y a une autre... plutôt que de forcément se dire qu'il va y avoir des gens qui vont avoir une puissance de levier, de changement, on peut se dire aussi qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, nous apparaissent comme étant des signes de quelque chose, mais qui, en leur temps, n'ont rien changé, sont apparus comme des losers même, en fait. Et puis qui étaient dans leur couloir de nage et qui n'ont pas rencontré des gens différents d'eux, etc. Ça demande beaucoup d'attention et autour de soi de se dire qu'il y a des gens qui sont des signes de quelque chose mais qui, pour autant, ne sont pas des grands acteurs, ne sont pas des gens avec des moyens. Voilà, ce sont des gens